Hashtag Un autre regard sur le handicap.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Hashtag avec Anne Clément du Clos du Nid, toujours à mes côtés. Salut Anne.
Bonjour.
Alors Anne, aujourd'hui une émission un peu spéciale car elle est délocalisée. On a délocalisé les studios de 48FM et on se retrouve ici au complexe euroméditerranéen de Montroda, c'est ça?
C'est ça, on est au complexe de Montroda, géré par la 2LFS, donc un complexe qui regroupe un village de vacances avec des gîtes totalement adaptés à tout type de handicap, un grand gymnase, une piste d'athlétisme, bref, tout un complexe sportif totalement adapté au handicap et qui en fait, alors comme le président Blanc aime à le dire, un vrai fond romeu du handicap.
Alors on est aujourd'hui ici, c'est pas un hasard, c'est qu'il se passe quelque chose en ce moment.
Exactement, on a l'immense privilège de recevoir un stage de frame running. Et pour la première fois, nous allons enregistrer une émission à l'international, Ludo. Donc attention, anglicisme en cours, voilà.
Voilà, mais on a l'aide d'Adélaïde qui est avec nous, qui travaille avec toi depuis peu. Bonjour Adélaïde.
Bonjour.
Et qui va nous servir de traductrice parce que c'est international, parce qu'on a une grande championne aujourd'hui avec nous, Connie Hansen, qui est créatrice de ce sport, le frame running. Connie, bonjour. Hello.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a aussi des athlètes qui font du frame running. C'est Léa Blasco qui est là, qui est athlète et qui est aussi présidente de l'association Les Mousquetaires Oz, créée en 2024 pour développer ce sport en France. Bonjour Léa.
Bonjour.
On a Robin Castric, athlète au club de Saint-Barthélemy d'Anjou. Bonjour.
Bonjour.
Et on a aussi de la Commission nationale athlétisme Fédération française de handisport, le référent du frame running en France, c'est Ludovic Buanec. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là pour cette émission et pour ce stage aussi. On va parler un peu en long et en large en travers de ce sport. Mais on va peut-être commencer avec vous, Connie Hansen. Vous êtes créatrice de ce sport, mais avant d'être créatrice, déjà, vous êtes une grande championne avec beaucoup de titres, beaucoup de médailles aux Jeux paralympiques, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours sportif?
In fact, it's not the medals that made it possible for me to create the concept of frame running. It was maybe more that I was involved in developing.
Donc c'est pas les médailles qui ont fait de moi une personne capable de créer cette discipline. C'est vraiment j'ai essayé de créer une nouvelle qualification pour les athlètes en fauteuil et c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui est possible avec quelle est la différence entre des athlètes et
les équipements sportifs. Voilà. En fait, comment associer équipement sportif et athlète suivant les classifications du handicap des athlètes.
On parlait de médailles quand même, faut le dire pour nos auditeurs, c'est 9 médailles d'or. 4 d'argent, 1 de bronze aux Jeux de 1984, 1988 et 1992 aux Jeux paralympiques. Comment on passe du statut d'athlète hors norme à celui d'inventrice, en fait?
I like to create things like
j'adore créer des choses, construire des choses. Déjà, rien qu'avec les Lego, j'ai un esprit très créatif. Un athlète danois est venu me voir et m'a demandé de construire un fauteuil un petit peu plus efficace puisqu'il avait envie de faire plus de choses. Et avec sa paralysie cérébrale, il avait beaucoup de mal à faire différents mouvements et c'était très inconfortable, donc il avait vraiment besoin d'un équipement plus adapté.
À cette période, en fait, Mansour Siddiqui, c'était l'athlète danois qui est venu voir Connie Hansen. Il faisait le 100 mètres en fauteuil, en poussant en marche arrière. Donc il faisait, c'était une discipline de pousser avec le dos à la ligne d'arrivée. Et donc Connie a inventé pour qu'il puisse courir, cette fois avec, comme tout autre athlète, en regardant la ligne d'arrivée et en ayant un déplacement plus efficace qu'en courant en marche arrière.
Alors le frame running a été créé en 1991. Quand vous voyez, Connie, aujourd'hui ce que ce sport est devenu, donc présent au championnat du monde, au championnat d'Europe et bientôt aux Jeux Olympiques de Los Angeles, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous ressentez?
Donc au tout début, il y avait des jeunes athlètes qui ont commencé le frame running et ils se sont posé la question, est-ce que c'est un vrai sport? Est-ce que je pourrais aller faire des compétitions nationales, internationales? Et donc c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait créer une vraie structure pour en faire quelque chose de grand. Au tout début, on pensait que c'était possible de faire concourir des athlètes avec le frame, donc le tricycle, au milieu d'autres athlètes en fauteuil. Mais en fait, on s'est rendu compte que ces derniers étaient vraiment en désavantage, désavantagés par le frame running parce que c'était beaucoup trop rapide. Donc il a fallu créer toute une structure et c'est ce qui a fait que ça a pris énormément de temps.
C'est vrai que ce qu'il faut noter, c'est que il y a le fait de pouvoir aller beaucoup plus vite aussi, parce qu'avant, il courait en marche arrière, en regardant toujours la ligne d'arrivée, faisant attention de ne pas sortir du couloir. Donc le fait de partir en marche avant, ça fait, et l'invention de nouveaux aussi systèmes d'équipement, en fait, pour aller de plus en plus vite, fait que cette discipline aussi, elle apparaît aux yeux de tout le monde comme étant une discipline intéressante et pour les pratiquants aussi.
Justement, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est un frame runner et comment fonctionne la course?
Alors le frame, il faut l'imaginer comme une draisienne à trois roues, donc c'est un tricycle et il se propulse avec les jambes, donc ils sont assis sur une selle et puis ils ont ce qu'on appelle un plastron sur la poitrine ou sur le ventre. Et après, ça se conduit comme un vélo, donc ils ont un guidon. Et il faut l'imaginer sur une piste d'athlétisme avec des couloirs. Donc ils ont les règles d'une compétition ordinaire, c'est-à-dire rester dans son couloir quand on fait du sprint. Et puis après, quand on fait des distances plus longues, ben, on a le droit de doubler, on a le droit de changer de couloir et d'essayer de se cacher derrière aussi parfois, hein, pour essayer de s'économiser pour pouvoir doubler dans les derniers kilomètres.
Justement, les distances, c'est des distances assez classiques?
Alors ici, il faut se rendre compte que c'est aussi une discipline qui va du sprint très court. Donc on peut voir des 30 mètres, des 50 mètres sur des compétitions internationales comme au Danemark. Et nous, on fait des compétitions plutôt autour de 50 mètres en salle notamment pour aller vers le 100 mètres qui sera la seule épreuve aux Jeux paralympiques, voilà, à ce jour. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que les frame runners vont beaucoup plus loin que ça. Ils vont faire du 200 mètres, du 400 mètres, du 800 mètres, du 1500 mètres, du 5000 mètres. Et ensuite.
Et 10 000 mètres, et 10 km aussi.
Voilà, exactement. Ouais. Et je rebondis sur Léa sans lui couper la parole, mais en fait, sur la piste, on reste sur ces disciplines-là, en fait. Mais après, on peut courir sur la route. Et sur la route, donc les champions qu'on a là, ils font jusqu'à 10 km.
C'est ce que je vais vous demander.
Je pense que ça ira plus loin.
Léa et Robin, c'est quoi vos distances, vous, de prédilection?
5 et 10 km.
D'accord, Léa.
Mais pour moi, je suis plus à l'aise sur des distances beaucoup plus courtes, 100, 200 et 400 mètres.
Est-ce que du coup, ça ressemble vraiment à de la course à pied au niveau de l'intensité, des sensations?
Ça, c'est exactement ça. Après, c'est un sport porté, donc il faut aussi, il y a moins d'impact. Ça implique d'autres choses au niveau d'entraînement aussi, c'est-à-dire que on va avoir des courses qui peuvent ressembler à des courses cyclistes, où on peut avoir des stratégies en fait assez proches du cyclisme, des récupérations aussi qui sont plus intéressantes, parce qu'on récupère plus vite quand il y a moins d'impact musculaire, notamment, voilà. Mais par contre, au niveau des sensations, que pour des sprinteurs, on fait exactement la même chose. On cherche à avoir le meilleur rapport entre l'amplitude et la fréquence, la meilleure force au départ, la meilleure intensité dans la course, la connaissance des allures, c'est des choses très similaires.
C'est que de l'individuel ou sur des distances longues, on peut avoir des compétitions en équipe?
Alors, il y a que des épreuves, on va dire, individuelles, athlétiques, mais on peut avoir des compétitions par équipe. Donc à la Fédération française handisport, on a une compétition qui s'appelle la Coupe des régions, qui est une toutes les régions constituent des équipes et ils peuvent venir avec leur athlète frame runner. Et là, ils réalisent leurs performances individuelles qui sont comptabilisées pour pour l'équipe.
Côté bénéfice pour la santé, ça apporte quoi? On parle de renforcement musculaire, de coordination, de contrôle moteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ce que ça
amène? C'est vrai que ce qu'on n'a pas forcément dit là, c'est que le frame est vraiment très adapté au public qui ont une dépendance importante, donc ils sont souvent en déplacement quotidien en fauteuil manuel ou en fauteuil électrique. Et ce qui impacte évidemment l'utilisation des membres inférieurs. Donc au quotidien, ils n'utilisent pas leurs jambes, ils donc, ne développent pas forcément les mêmes capacités respiratoires aussi. Et le fait de pouvoir se redresser, d'être sur un frame de poussée sur les jambes, de pouvoir parcourir un grand nombre de kilomètres, évidemment que ça a un impact fort sur leur santé, sur leur santé cardiovasculaire, bien sûr, mais aussi sur la force musculaire et sur l'équilibre. Parce que pour pouvoir conduire un frame, il faut réussir à négocier aussi, bien sûr, tout ce qu'on fait avec les membres supérieurs, donc pour conduire, mais aussi l'équilibre pour être stable sur la selle et la propulsion pour pouvoir aller droit.
Les Robins, vous avez senti justement que ce travail portait ses fruits, une amélioration sur certains points?
Pour moi, oui, j'ai senti ça, d'autant plus que j'ai commencé l'athlé en fait par le fauteuil et du coup, j'avais pas les moyens de marcher correctement puisque avant je marchais mais j'ai subi une opération qui a fait que aujourd'hui je me déplace plus qu'en fauteuil roulant et du coup cette sensation de marche et même de courir je l'avais jamais eu mais de marcher je l'avais plus du tout et donc ça a été très étrange au départ de la retrouver mais aujourd'hui c'est vraiment très chouette et je remercie le frame pour cet apport-là au niveau de ma santé, c'est vraiment super.
Léa?
Oui, ben moi, alors, je ressens surtout du mieux au niveau de mes jambes, la force musculaire. Sinon, après, l'équilibre sur une selle, c'est vrai que je l'avais assez bien, je pense.
Connie, est-ce que vous avez eu des doutes sur le fait que ce sport n'arrive pas à se développer?
I was in the last couple of years before the announcement.
Ces dernières années, avant l'annonce de l'arrivée du frame running aux Jeux paralympiques, j'avais l'impression d'être Moïse qui a passé 40 ans dans le désert. J'avais un petit peu peur, mais après, ça a été un grand soulagement quand on a appris qu'il y avait au moins une discipline qui allait être présente aux Jeux paralympiques.
Et comment ça s'est passé justement pour que cette discipline puisse arriver jusqu'aux Jeux paralympiques? Ça a été des négociations, de longues négociations. Oula, pardon, je bafouille.
Oui.
Il y a eu de grandes évolutions autour de la mise en place des disciplines paralympiques et du handisport. Il y a eu des associations qui sont créées, qui sont décréées, qui ont arrêté d'être. Et en fait, ce qui a été le plus difficile, c'était pas seulement de négocier avec les associations, mais de renégocier et d'essayer de convaincre à chaque fois les nouvelles associations au même rythme que les changements, en fait. Il y a eu tellement de changements que c'était ça le plus gros challenge, de suivre en fait toutes les politiques pour au final arriver à convaincre une bonne fois pour toutes que c'était un sport intéressant.
Et alors donc du coup qui a dit oui, ça y est, on le met? Qui a signé? Quel est le président du comité paralympique qui a dit allez, ok, moi je signe, on met le frame running au jeu?
Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le frame s'est développé avec une association qui propose des activités pour les paralysés cérébraux. Donc en fait, ils ont développé l'activité et monté des stages, comme par exemple le stage à Copenhague, qui est un camp en fait d'entraînement à Copenhague, qui a 17 ans en fait, qui a fêté, je crois, 17 ans. Et donc c'est comme ça qu'ils ont fait parler du frame running à l'international, qu'ils ont commencé. Et donc Mansour Siddiqui, qui est celui qui a beaucoup travaillé ardemment pour pouvoir montrer un petit peu que c'était une discipline qui ressemblait fortement à l'athlétisme, et qu'il fallait qu'elle soit proposée, parce que ça mettait autrement trop d'athlètes à l'écart, alors que on leur proposait juste de faire du lancer ou de la course en fauteuil, et là on leur proposait de venir courir en fait. Et donc en faisant ça, ça a été légitime, mais c'était très long, parce que pour pouvoir intégrer l'IPC, donc c'est aujourd'hui ceux qui organisent les Jeux paralympiques, il faut un certain nombre de règles, et notamment une des règles importantes, c'est la classification. Il faut ressembler à une forme de classification qui existe déjà chez les paraathlètes. Vous savez qu'il y a des classifications pour les déficients visuels, des classifications pour les personnes en fauteuil, des personnes qui ont des assimilations, amputations, ou de, voilà, ils ont tous des classes différentes. On ne les voit pas courir en même temps. Et il fallait montrer aussi que le frame running pouvait avoir sa propre classification, ses propres épreuves, sa propre spécificité, et qu'elle était légitime pour pouvoir rentrer sur les Jeux paralympiques qui sont gérés aujourd'hui par l'IPC, qui est l'International Paralympic Committee.
Il a fallu faire ses preuves, quoi.
Exactement, et ça continue, parce que, et c'est là que le message est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, Connie, elle dit qu'elle a travaillé très longtemps, et en fait, Mansour aussi ont travaillé très très longtemps, ils continuent à travailler longtemps pour ressembler et continuer à montrer que c'est une discipline comme les autres, et qu'on mérite de faire, que les athlètes méritent de faire les Jeux, et pas uniquement que les Jeux sur 100 mètres. Parce qu'aujourd'hui, l'épreuve unique pour Los Angeles, c'est le 100 mètres. Et il faut savoir que ça va plus loin, c'est que c'est uniquement pour une seule des deux catégories qui est proposée, qui est en fait, il y a deux catégories en frame running actuellement, qui est en fait le 71 et le 72. Donc ce qui
correspond
proposé,
à quoi
71 et 72, c'est des niveaux, on va dire, de motricité, de fonctionnel en fait. Globalement, les 72 ont moins d'atteintes et vont plus vite, si je simplifie. Et les 71 ont plus d'atteintes motrices, donc sont plus en difficulté de coordination et vont moins vite. Et aujourd'hui, ils vont être associés, on va leur proposer un 100 mètres T71 et T72, mais en réalité, on voit que c'est très injuste parce qu'il n'y aura pas de compensation et que seront présents les 72 en grande majorité. Donc là, le travail qu'il y a à faire sur les prochaines années encore, et je pense que Connie pourra continuer à le dire, c'est de montrer qu'ils peuvent aller jusqu'aux 5000 mètres, donc 100, 200, 400, voilà, et puis pour les 71 et 72. Mais étape après étape, marche après marche, et ça c'est valable depuis 40 ans en fait, hein. C'est ce qu'ils font en fait, c'est ce qu'on fait maintenant en France, mais voilà, c'est ce qu'on souhaite continuer pour que... Et la place, ici vous avez deux athlètes de deux catégories différentes, vous avez Robin qui est 71 et puis Léa qui est 72, donc on sait tous les deux qu'ils ont peut-être des rêves paralympiques, il faut peut-être pas, il faut qu'ils restent sur le 100 mètres malheureusement, et qu'ils essaient d'être meilleurs que les autres, mais on voit que c'est assez injuste en fait. Donc il faudrait.
D'accord. Bon, donc c'est une victoire, mais par la petite porte en fait, il y a de quoi faire encore. Mais... Ok. Oui. Ah, il y a Connie qui veut rajouter.
Just to put it straight, it the proposal.
Ceux qui ont poussé le frame running auprès du comité parathlétique, c'est les World Paraathletic. Okay. Les paraathlétiques mondiaux. Et en fait, eux, ils ont été convaincus assez rapidement et ils essaient d'aller plus loin auprès du comité paralympique et de montrer qu'il faut différentes qualifications en fonction du handicap et de l'assistance dont a besoin la personne.
Oui,
tout ça, c'est une histoire de lobbying, en fait.
Oui, un peu, mais depuis le début, c'est comme ça. Et moi, je peux rebondir un petit peu, parce qu'elle a dit quelque chose d'important à la fin, c'est que vous allez voir des athlètes qui sont très rapides au jeu. Donc c'est des athlètes qui font 15 secondes chez les garçons, 16 secondes, 17 secondes, ça sera les athlètes chez les garçons, d'accord ? Et chez les filles, c'est 17, 18 ou 19 secondes. Ça va très très vite. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas uniquement ça. Et la World Ability Sports, qui est en fait la fédération aujourd'hui qui a repris le développement du frame running, qui était anciennement la CPISRA, Cérébral Palsy, donc les parésies cérébrales. Donc ils ont développé le sport pour bien d'autres athlètes que ceux que vous allez voir au jeu. Et notamment, vous verrez des athlètes avec assistance. Avec assistance, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient aider à conduire le fauteuil.
Comme à la boccia, il y a de l'assistance.
Exactement.
Sur la boccia, par
donc eux, c'est des guides, un peu comme on a des déficients visuels qui courent avec des guides. Eux, ils ont des guides à côté pour les aider à conduire le fauteuil parce qu'ils n'ont pas la coordination des membres supérieurs, okay, ou ils ont des difficultés qui vont faire qu'ils vont sortir du couloir et sortir du règlement. Donc tout ça, en fait, c'est... Et on a aussi des athlètes qui n'ont pas le minimum de handicap pour entrer dans cette catégorie et pour qui, au final, le frame running est très bien pour eux aussi et ils ont... une plus-value, que ce soit pour leur santé ou pour l'aspect compétition, de pratiquer le frame running.
En plus, ça, on a l'accord pour Los Angeles, mais on ne sait pas après ce qui peut se passer.
Pour le moment, on ne sait pas. Donc, c'est un peu étape après étape, comme on disait. Il faut d'abord montrer que c'est possible. Et ensuite,
que ça marche.
Voilà, ouais. Et une fois que c'est possible, on continue. Et en fait, là, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas possible. Il n'y a aucune raison. Ils cochent toutes les cases. Néanmoins, pour pouvoir rentrer une nouvelle épreuve au jeu, souvent, il faut en sortir. Parce qu'autrement, on ferait des semaines et des semaines de jeux paralympiques, en fait. Parce qu'on aurait autant d'épreuves. Voilà. Et
donc,
souvent, c'est plus on va dire, un compromis entre le nombre d'épreuves qu'on peut réaliser, celle qu'on doit sortir parce qu'elle est moins représentative, et celle qu'on peut faire rentrer. Et aujourd'hui, les frame runners sont de plus en plus nombreux dans le monde à pratiquer, tous les pays. Et donc, ça aussi, ça coche une des cases de présent sur l'ensemble des continents et que cette discipline, elle est présente de plus en plus.
C'est ce que disait Connie, effectivement. Voilà. Le fait qu'il y ait beaucoup d'athlètes de tout pays, ça met une pression aussi supplémentaire. Et justement, alors quand on parlait de lobbying, alors le lobbying en France, comment il s'organise, Léa, pour faire connaître ce sport? Donc toi, tu as trouvé la solution, tu as créé une association.
Oui, mais l'association, elle n'existait pas pour le frame running à la base. Le frame running, je l'ai connu en marge d'une course. Donc, les 24 heures Saint-Pierre que je fais tous les ans avec mes parents.
Et d'ailleurs, on salue l'Institut Saint-Pierre de Palavas, avec qui on travaille pas mal au niveau du complexe, en effet. Okay. Donc toi, t'étais une athlète fauteuil, à la base ?
Non.
Non ?
Non, pas du tout, non. Mais j'ai été à l'Institut Saint-Pierre, et du coup, je connais toujours les gens qui m'ont présenté le frame parce qu'ils en ont. Et de là, je me suis dit que j'allais faire mon tour en frame. Comme tout le monde court, je voulais faire pareil. Plutôt que le faire en joëlette.
Ok.
Donc, avec mon papa, on a monté une section frame à Carpentras, qui est finalement le seul club du sud de la France, je crois. Et puis, voilà où ça m'a mené.
Mais comment on passe de sportive à présidente d'association ?
Mes parents, anciens militaires, on fait une petite chef.
C'est bien.
Donc, voilà.
On va qu'on y arrive.
Ok, mais pardon, Ludo. Vas-y. Par contre, ton association, elle n'était pas créée pour ça, mais aujourd'hui, l'association sert aussi à ça, à promouvoir le frame running.
Elle sert aussi à ça, mais pas que.
Ok. Donc, l'association qui s'appelle les Mousquetaires Oz.
Oui.
Et c'est pas l'association qui organise la compétition le 16 avril ici ?
Qui a organisé le stage globalement le stage. Sur la semaine et au cours de cette semaine, il va y avoir une compétition.
Oui, on l'a organisé au début, donc nous on a financé que pour 30 personnes à peu près, donc au final on a 16 athlètes frame runners et des accompagnants, donc on a financé ça. Après c'est la FFH qui s'est greffée et on remercie Ludovic parce que il a pu nous apporter beaucoup d'aide et beaucoup de monde. Donc, c'est super.
Après, c'est bien pour toi aussi, Ludovic, qu'il y ait des stages qui s'organisent comme ça. Parce que qui dit compétition, dit ben, entraînement, dit stage de cohésion aussi pour former une équipe de France, qui va aller du coup, au championnat d'Europe, du monde, aux futurs Jeux Olympiques. Vous en organisez beaucoup de stages de frame running dans l'année ?
Alors, c'est une première, hein, ce stage.
C'est ce qui me semblait.
Oui, alors c'est pas tout à fait... Une première, parce qu'on se déplace au camp au Danemark, le fameux camp organisé par Mansour Siddiqui et puis son équipe. On retrouve chaque année Connie Hansen.
Au mois de juillet, je crois.
Voilà, au mois de juillet, début juillet. Donc nous, on a commencé il y a 3 ans, donc on s'est connus là-bas. Donc les quelques Français, notamment Léa, mais aussi Robin et d'autres, hein, sont venus voilà, pour représenter en fait la France là-bas. Et ils avaient comme idée, donc l'association Les Mousquetaires Roses, de pouvoir faire un camp équivalent, quelque chose qui ressemblerait en France. Il faut savoir que le frame running fait partie de la commission athlétisme handisport, donc on n'est pas uniquement que sur le développement du frame, on a aussi d'autres para-athlètes. Et donc avoir un stage inclusif qui permet de travailler sur le développement de la pratique de l'athlétisme et du para-athlétisme ou de l'athlétisme handisport, c'était un peu ce qu'on souhaitait faire. Pas uniquement, évidemment, il y a un gros coup de projecteur sur le frame running, et on est content qu'il y ait 16 athlètes, et beaucoup pour moi de nouveau aussi, de personnes. Évidemment, il y a les cadres, hein, il y a les gens, Robin et puis Léa, ils sont présents, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux. Et c'est une vraie satisfaction de voir ces jeunes, et puis mélanger aux autres, parce que l'athlétisme en France, c'est pas uniquement que le frame running, et évidemment, nous, on a envie de développer l'activité, de faire une équipe, monter ces jeunes au plus haut niveau. Et après, ça sera peut-être plus notre... nous, on est beaucoup sur le développement. Et ça sera aussi... Il y a une commission performance aussi dans notre fédération. Donc les meilleurs d'entre eux aussi basculeront à un moment donné vers les équipes de France. Mais ce sera un peu moins mon rôle, je pense. Moi, je suis sur un parti développement avec mes collègues sur ce stage. Et l'équipe technique est là pour pouvoir apporter les compétences autour du développement de la pratique.
Hashtag Ludovic Terrol, Anne Clémence.
Vous êtes la concurrence, il y a des jeunes qui poussent derrière ?
Melvin.
Il y a un nom déjà. On a un athlète en fait qui a une performance qui lui permet de rentrer dans les 12 meilleurs mondiaux.
C'est pas le 14e.
Et en fait, il est sur 200 mètres. Il est un peu plus avantagé, mais ça sera pas pour les Jeux, ça.
Et non.
L'année dernière, il a la 3e meilleure performance mondiale. Donc, et il est là sur le stage,
super.
Mélangé aux autres.
Le 16 avril, on va le battre, là. Hein ?
Non.
Non. C'est pas possible.
Non.
Je m'adresse à vous quatre. Est-ce qu'on peut encore l'améliorer, le frame ? Je sais pas, le matériel ou je sais pas, la compétition. Un moteur. Ah, oh, mais ça, c'est de la triche, Léa.
Après. Ouais, mais ça l'améliorerait.
C'est sûr. Ludovic.
Pour la partie, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'optimiser en fait leur capacité en fait sur le frame. Alors, il y en a certains frames qui ont on peut adapter beaucoup de choses dessus, donc la forme du plastron, la selle. On peut aussi adapter le guidon, la façon de se tenir en fait sur le frame. On peut avoir des frames qui sont plus légers, aussi. Donc là aujourd'hui, certains athlètes sont équipés de frames en carbone et en alu, plus léger. Donc on peut continuer d'améliorer et c'est ce que recherche, je pense, Conny. Recherche dans son côté un peu bricoleur, chercher à optimiser pour avoir des meilleures performances toujours. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'optimiser les capacités de ces athlètes pour qu'ils soient déjà en sécurité sur l'engin, qu'ils soient aussi en confort au début quand même, parce qu'il faut adhérer à cette activité qui peut être un peu inconfortable, assis sur une selle, vous avez tous fait du vélo, c'est pas toujours simple au début. Et puis aussi qu'ils réussissent à faire leur performance et améliorer leur capacité. Pour certains, ça part de très loin. Ils ont toujours été en fauteuil. Et donc il faut y aller progressivement. Ils sont essoufflés au bout de 50 mètres. Et puis après, c'est 100 mètres. Et puis après, ils peuvent faire un 10 km comme fait Léa. Alors techniquement, par contre, je vais laisser Conny préciser comment elle techniquement, elle travaille sur l'expertise de son matériel.
Well, the difficulty, the challenge is always.
En fait, la difficulté, c'est toujours la stabilité versus la rapidité, puisqu'il y a certains athlètes qui ont besoin de plus de stabilité, donc d'un frame un peu plus lourd, et d'autres qui ont besoin de plus de vitesse, donc ils vont avoir besoin d'un frame un peu plus léger. Il y a une autre difficulté, c'est vraiment l'ajustement de la selle par rapport aux athlètes, par rapport à leur position de bassin. Et c'est vraiment une limite qui est difficile à dépasser. Et puis ensuite, il y a tout le règlement du plastron, des poignets. C'est vraiment, ça va vraiment dépendre de l'athlète. Et c'est là où repose toute la difficulté. C'est vraiment un truc, un pli à avoir pour régler le frame.
Après, c'est comme le vélo. Plus on va avoir des athlètes de haut niveau, plus on va avoir du matériel complètement individualisé à l'athlète, j'imagine.
Exactement. Donc, on a du matériel qui est en fonction de la taille de l'athlète, déjà. Donc, ça, c'est le premier. Puis après, on va chercher à avoir des... C'est ce que disait Conny, un compromis entre la stabilité et puis la vitesse. Donc on a certains athlètes qui vont avoir besoin de beaucoup de stabilité et des réglages qui leur permettent en fait d'être positionnés d'une certaine manière sur le frame, plus couchés, plus redressés, parce que ça pose des problèmes d'équilibre, de stabilité tout simplement. Et puis après d'autres qui vont chercher plutôt la vitesse et à être plus orientés. Donc là, une fois que les réglages sont faits, on change assez peu, mais ils prennent du temps. Et ils montent avec le niveau. Ces réglages, ben, je pense que Léa et puis Robin peuvent en témoigner. Hein. Des réglages, on continue à en faire. Robin, on était sur du réglage ce matin à l'entraînement. Léa, c'est beaucoup plus simple, hein, on va dire. Mais on cherche à avoir des positionnements qui leur permettent d'être à la fois performants, mais aussi bah, de ce que disait Conny hein, tout de suite, c'est que si on a mal quelque part, on n'a pas envie de faire. Donc, il faut trouver cette possibilité d'avoir du confort et de passer d'avoir plaisir à pratiquer. Parce qu'aller vite, c'est très plaisant, très très plaisant. Mais si on a mal, eh ben on s'arrête, quoi. C'est tout simple.
Et toi, Robin, tu as ton propre matériel, j'imagine ?
Bah oui, et puis du coup, pour rebondir sur ce que disait Ludo, moi, j'aime beaucoup la vitesse et même la pratique de l'athlétisme et notamment le sprint. Mais aujourd'hui, je prends quasiment aucun plaisir à faire du frame, évidemment à retrouver les gens avec qui je suis allé au Danemark, ça c'est vraiment chouette, et participer à des stages comme ça c'est vraiment top, mais la pratique en elle-même est très difficile pour moi depuis l'achat de mon nouveau matériel, puisque j'ai très mal quand je suis sur la selle, et en fait j'ai peur qu'avoir une autre selle joue sur l'inégalité de longueur que j'ai entre la jambe gauche et la jambe droite, et donc c'est ce compromis là que j'arrive pas à trouver, et c'est très handicapant pour moi, et je trouve que ça souligne mon handicap, le fait que sur les réglages j'arrive pas à trouver quand je vois d'autres qui s'épanouissent en allant vite ou en pratiquant le frame, moi je suis, j'ai beaucoup de frustration à rester sur des réglages, alors que ça fait depuis octobre dernier que j'ai mon matériel.
D'accord, d'accord. Donc...
Ça, on peut le solutionner, ce problème, Ludovic ?
Oui, alors c'est vrai que Robin, il a un entraîneur, hein, donc elle essaye constamment, on fait beaucoup d'essais, mais souvent c'est l'isolement en fait, qui fait que ce n'est pas toujours facile de régler ça. Donc le fait que Robin soit en stage là, ça permet d'avoir un autre regard, d'avoir l'expertise, et là on a la chance d'avoir Connie Hansen sur... Et puis Kenneth, hein, qui est son bras droit aussi, et pour permettre d'avoir une autre expertise. Hein, parce que c'est eux qui ont conçu le matériel, et c'est eux qui vont permettre de solutionner, soit trouver une autre selle, hein, mais après, c'est pas seulement ça, c'est aussi d'autres positionnements, quoi.
Mais Robin, rassure-nous, on va trouver, tu vas continuer.
Ah oui, j'espère continuer. L'année dernière, j'étais dans le top 7, dans le top 10 mondial au niveau du 100 mètres, pour le coup T71. Et l'objectif est d'aller de plus en plus vers la première place. Et si un jour les compétitions s'ouvrent, d'y participer, c'est mon plus grand souhait au niveau sportif, et donc j'espère que c'est le frame qui m'y amènera.
Et dis-nous, du coup, le 100 mètres, tu le fais en combien?
En 25 secondes 40.
Ah oui,
okay. Ouais, c'est bien. Il est meilleur que Melvin, alors?
Alors, pas tout à fait. Melvin, il court en 19 secondes.
C'est parce que la selle, elle va pas, mais quand
pas
la selle, elle ira.
Voilà, c'est ça.
C'est ça aussi.
Et c'est un nouveau frame, mais c'est vrai que on parlait tout à l'heure de stabilité, de légèreté. Il a maintenant un frame qui est beaucoup plus léger, voilà, mais qui a une inclinaison un peu différente aussi,
okay.
Et qui répartit le poids en fait sur le frame qui est un peu différent. Donc, alors comme il va aussi, on va dire un petit peu moins vite. Les effets, en fait, le bénéfice d'un frame plus léger, ils sont moins importants.
D'accord.
Que quelqu'un qui serait un peu plus lourd et plus rapide. Mais évidemment qu'il va progresser, c'est sûr.
Sachant que pour les 25 secondes 40, je les ai faites alors que je n'avais pas ce nouveau matériel-là, voilà, que j'ai actuellement.
C'est quand les qualifications pour les JO? Parce qu'on a le temps là quand même.
Oui, un petit peu le temps. Et ça va démarrer, on va dire, l'année prochaine. Voilà. Il faut savoir qu'il y a certaines compétitions internationales qui permettent de gagner ce qu'on appelle des quotas. Voilà, pour, on va dire qu'en ayant des quotas pour l'équipe de France... on va pouvoir ensuite, l'année des Jeux, sélectionner les gens. Donc, les années précédentes sont importantes parce qu'on peut gagner
des
quotas.
C'est là où on gagne, oui, c'est ce qui se passe en ping-pong. Nous, on suit pas mal le ping-pong parce qu'on a un athlète en Lozère. On peut monter jusqu'à combien d'athlètes sélectionnés, hommes et femmes ?
On peut monter très loin. Alors, en général, en France, on a plutôt entre 15 et 25 athlètes, tout confondu, hein, par athlète.
Okay.
Uniquement sur le frame, d'accord. Et donc ça fait, en général, c'est les quotas qu'on arrive à gagner, entre 15 et 25, selon les années, quoi. Et pour ça, pour gagner, il faut être sur les podiums mondiaux, sur les podiums européens, quand c'est ouvert. Cette année, il n'y a pas de championnat d'Europe, donc il n'y aura pas la possibilité de le faire. Bon, c'était pas... Mais il y aura les champions du monde l'année prochaine.
D'accord.
Et on peut gagner des quotas pour pouvoir ensuite bloquer l'année suivante les participants. Après, il y a des minima, hein, il faut non seulement gagner des quotas, mais les quotas ne sont pas réservés aux athlètes. Si on est champion du monde, on peut avoir une place, on va dire.
Oui, il y a une wild card.
Voilà. Mais par contre, après, il faut faire des minima, éliminatoires de qualification. Et en France, bien sûr, mais ils sont très élevés.
C'est combien, par exemple, pour le 100 mètres T71?
On n'a pas encore. Alors, on 72, sait pas encore. Du coup, parce que les 71 et 72 vont être réunis dans une même course. Donc, ça sera un minima qui correspondra sans doute à une course qui va... Là, pour le moment, les minima ne sont pas sortis. Hein.
Ah, on ne sait pas.
Ils ne sortent pas, mais on imagine que les premiers minima vont être autour de 16 secondes, autour, à mon avis, puisque le record du monde est à moins de 15 secondes. Donc, chez les garçons, ça va être autour de 16 secondes. 18 secondes, à mon avis, 17-18 secondes chez les filles.
Ah, c'est aussi près que
c'est très, 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 très
que
haut.
Ça du record du monde. Ah ouais,
et ensuite, après, énorme. Ils vont aller chercher... apprendre à faire des minima, des deuxièmes minima, donc des minima un peu plus légers pour permettre à d'autres sportifs de rentrer et pas uniquement avoir qu'une seule nation quoi, qui pourrait présenter.
Oui, il y a quelques secondes à gagner encore, Robin.
C'est 16 secondes, je crois, le record mondial féminin.
Oui.
Alors, on sait que le frame runner aussi sert, par exemple, à certains enfants à se déplacer, à aller à l'école. Est-ce que vous vous en servez dans votre quotidien ?
Non.
Non, Léa, non ?
Non.
Robin ?
Moi, oui et non. C'est-à-dire que je ne m'en sers pas pour autre chose que de l'athlétisme. Mais par contre, je sais que la station debout que je fais lors de mes entraînements m'aide aussi beaucoup pour mon quotidien. Donc ça a un apport à la suite des entraînements.
C'est un apport rééducatif un peu.
Oui.
C'est ça, dans ce sens-là. Ouais.
Rééducatif et même pour l'autonomie sur des choses aussi simples que les gestes du quotidien, comme faire sa toilette. Je peux être debout plus facilement sans avoir de tremblement au niveau de l'équilibre. Aussi le fait de réussir à trouver un équilibre sur le frame avec une jambe qui est plus courte que l'autre, ça me permet d'être rassuré pour le trouver aussi quand j'ai plus de selle et donc quand dans des situations où j'ai besoin de me mettre debout. Donc c'est beaucoup moins d'appréhension et beaucoup plus de facilité même dans l'autonomie au-delà du rééducatif.
Bon, est-ce qu'il est bien ce complexe euroméditerranéen ici à Montroda ?
Oui, franchement oui. Une fois que le chauffage est monté, oui.
Ah.
Bon, alors, il faut dire à nos auditeurs qu'ils ont eu la malchance d'arriver hier sous la neige, évidemment, sommes en Lozère et au mois d'avril, mais il neige encore en Lozère. Et
il y a 5 jours, il faisait 25 degrés.
C'est ça. Alors qu'on avait un temps printanier il y a quelques jours, hier, c'était la neige. Ah. Voilà,
on
ne
s'y attendait pas.
C'est sûr.
C'est sûr. Mais Connie ?
C'est sûr.
Yeah. You asked about development, the future, and of course there is.
On a parlé du soutien au niveau de la poitrine, au niveau du bassin, du frame, mais il y a aussi quelque chose de psychologique et de physiologique que Connie aimerait mentionner.
Le mental.
Parce que.
Il y a des fois où Connie arrive dans une école et elle rencontre des jeunes qui sont lourdement handicapés et qui n'ont pas de réponse en fait en dessous du bassin. Un mois plus tard, elle revient et elle voit ces mêmes enfants handicapés qui arrivent à courir et qui disent « Ah, mais en fait, j'ai des jambes, il faut que je fasse mes lacets parce que sinon je vais trébucher. » Donc c'est vraiment un développement au niveau mental, au niveau du cerveau, ça aide beaucoup. C'est vraiment magique en fait de voir que le fait de poser les pieds, d'être capable de poser les pieds au sol, ça engage un vrai développement et une vraie persistance, une vraie résilience dans le mental des athlètes parce qu'ils veulent toujours aller plus loin, toujours progresser davantage et c'est que ce soit au niveau mental ou au niveau physique, c'est vraiment un atout majeur. Elle a mentionné Léa et donc ses progrès qu'elle avait fait grâce au frame running.
Merci.
Pas le matériel professionnel, mais le matériel de base, ça coûte cher. Et est-ce qu'on peut bénéficier d'aide pour en acheter Comment ça se passe?
Alors, c'est vrai que vous pouvez tous appeler les mousquetaires roses. Peut-être qu'ils peuvent subventionner les.
Non.
Non, ça reste un matériel qui est assez coûteux parce que aussi la conception, aussi le matériel et enfin les matériaux plutôt utilisés sont quand même assez coûteux. Donc il faut compter environ entre 2000 et 4000 euros selon la taille qu'on prend. Et aussi,
pour un bas de gamme.
Oui, alors c'est pas facile forcément de dire bas de gamme, mais plutôt entre ce qui vous permet de débuter dans l'activité. Et après on va sur les frames de compétition, là, ceux dont on parlait tout à l'heure, qui sont plus proches de 8000 euros.
Oui, j'en ai vu un dans le gymnase, là, tout en alu, tout
en... Exactement, donc ce sont des frames qui sont avec un qui nécessite en fait beaucoup plus d'expertise aussi, de temps de fabrication, donc ils sont plus chers. Et voilà, par contre on peut avoir des aides. Alors évidemment, je pense que beaucoup se mettent aussi en association pour pouvoir faire des demandes de subventions, d'avoir la possibilité d'acheter du matériel et puis le réutiliser, pour parce que les enfants, quand ils démarrent, ils grandissent, et donc il faut en acheter une taille au-dessus, et donc à chaque fois ça a un coût. Donc on a à la Fédération française handisport aussi la possibilité de faire des demandes de subventions en fait, qui permettent d'acheter du matériel, donc qui prennent une partie en fait du financement. Puis après ça peut être aussi les comités territoriaux, la maison départementale personnes handicapées, qui peuvent aussi sur des projets sportifs, sur des projets de, il me semble c'est des projets de compensation en fait, pour permettre de, voilà, si c'est attesté que ça a un impact aussi sur leur santé, puisque c'est un peu l'idée, que c'est pas uniquement fait pour réaliser un projet sportif, que ce projet sportif, comme le disait Robin, a aussi un impact sur sa santé et sur ses capacités musculaires, sa santé physique et mentale. Et ben ça peut être aussi un moyen d'être financé par la maison départementale des personnes handicapées. Après, je vous dis, c'est pas non plus un parcours qui est simple, mais ça vous le connaissez. Je vais pas vous, j'imagine que c'est des choses dont vous parlez tout le temps. C'est des parents qui sont derrière, c'est des accompagnateurs, c'est des éducateurs, c'est des gens qui se mobilisent derrière. Et parfois aussi c'est eux-mêmes en fait qui font la démarche. Donc là, que ce soit Robin ou bien Léa, ils cherchent aussi à être acteurs de ce mouvement et à aussi soit aider d'une certaine manière au développement de cette pratique par montrer ce qu'ils sont capables de faire, mais aussi en donnant des conseils, en faisant du réseau et puis en construisant ce stage par exemple.
Vous avez presque répondu à cette question, mais je la pose à Léa et à Robin. Un jeune qui hésiterait à se lancer dans le frame running, vous lui diriez quoi pour le pousser à...
Vas-y, ça peut que t'aider physiquement déjà. Et du coup, ça va aider mentalement, inconsciemment, mais... quand on a un handicap, voir qu'on peut marcher, enfin, courir, faire comme les autres en étant libre, en toute autonomie, c'est génial.
Et moi, ce que je dirais aussi, pour compléter ce que disait Léa, c'est que quand on se met au frame running, on a de la chance que ce soit aussi une pratique compétitive. Et avoir cette chance-là aussi, c'est avoir un regard qui change pour soi et aussi pour les autres. On n'est plus considéré uniquement comme une personne en situation de handicap. On est un athlète vraiment à part entière, et c'est ce que permet le frame running. Et qu'on gagne ou qu'on perde, ça c'est la compétition, mais on a vraiment la possibilité d'être un athlète et plus seulement une personne en situation de handicap. Et même le côté athlète prend le dessus sur l'autre partie, ce qui est vraiment important, je trouve, dans notre société aujourd'hui.
Je crois que c'est une belle conclusion, Anne. On réorganise un stage juste avant Los Angeles, alors, pour préparer pour les JO.
Exactement.
À Monroda, fini le Danemark, trop loin, on vient en Lozère.
Alors, faut combiner les deux. Je pense que c'est un peu notre stratégie aussi. C'est que c'est aussi de belles rencontres, en fait, ces stages.
Bien
et,
sûr.
Évidemment,
c'est sûr.
Avant d'être un athlète, c'est aussi rencontrer plein de gens, donc au Danemark, mais aussi à Monroda, sur ce site incroyable en accessibilité, mais aussi...
Ce site qui porte bonheur, puisque nous avons eu la chance d'avoir justement sur son stage, avant les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques de Paris, on avait eu Aurélie à la Boccia qui a connu le parcours formidable des JO de Paris 2024. Donc elle était là, elle a fait son dernier stage ici à Monroda avant de monter à Paris. Donc on vous attend pour le stage préparatoire de 2028. Ouais. vous allez voir, ça porte bonheur.
T'as compris, Robin?
Ouais, j'ai compris, ouais.
Mais Léa aussi, hein, ouais. Attends.
Je laisse ma place.
Tu laisses ta place. Tu le coacheras.
Tu iras en tant que supporter.
C'est voilà. Ça. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Merci, merci Anne. Et on se retrouve. On va peut-être délocaliser aussi le mois prochain vers Florac. On va voir
on
si on y
ça,
arrive. Ou sinon,
fait.
On se retrouvera dans les studios de 40 FM.
C'est
merci.
Ça. À très vite.
Merci, à bientôt. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Hashtag un autre regard sur le handicap.